I know how it sounds.
La sex exploratrice. Avec Mel Trudel.
La sex exploratrice.
Radio X.
Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de la Sexploratrice en compagnie de Max, Mel et notre invité. Bonsoir Max.
Hey, salut.
Belle journée.
Excellente journée.
Yeah!
Toi aussi, t'as fait de la route pas mal aujourd'hui, toi.
Petit aller-retour à Montréal aujourd'hui pour enregistrement de podcast.
Dans la métropole, parmi les déchets et les restaurants fermés.
Moi, j'adore Montréal.
Ouais, t'es-tu fait voler dans ton char aujourd'hui?
Ah non. Donc ça, j'ai eu ma leçon.
Barre les portes.
Je barre les portes, je ne laisse rien sur les sièges avant. Et non, je suis très, très prudente. Ouais, vraiment.
Ouais, mais c'est vrai que je suis un peu dans ton équipe. Là. Moi aussi, j'aime bien Montréal, malgré ce qu'on peut en dire. Là. C'est sûr que les gens de Québec ont comme une haine viscérale envers la métropole, mais j'y ai habité pendant de nombreuses années, puis j'aime ça encore aller là.
J'adore.
Moins souvent qu'avant, mais j'aime ça.
Ouais, moi j'adore, j'ai mon petit pied à terre en plus, j'ai mon ami Maxime, c'est parfait, on aime ça.
Ah, la vie est belle. Génial.
Oui, donc c'est ça, j'enregistre un beau podcast aujourd'hui avec Marilyn Quentin et François Lambert. Vous allez entendre parler de ça très, très bientôt. François, d'ailleurs, qui donne de belles chroniques ici avec Roby. Donc, voilà. Et gratitude de la journée, eh bien, c'est la santé de mon fils qui était suivi depuis longtemps pour des petits problèmes de santé au CHUL et c'est réglé.
Ah, je suis tellement content d'entendre ça.
Oh, my God!
Je le sais que ça te pesait lourd ses épaules.
Ouais, vraiment, vraiment.
J'ai pas d'enfant, je peux pas imaginer ce que tu peux ressentir, mais de savoir que ton fils va mieux, qu'il va aller mieux, c'est clair que ça doit t'enlever un poids assez énorme ses épaules.
Totalement. Toi, ta gratitude de la journée, c'est quoi?
Oh! Ma gratitude de la journée?
T'étais pas prêt?
Non, j'étais pas prêt. Ça paraît-tu? Je vais dire ma blonde. Ça va être ça aujourd'hui.
Ouais. Oh, on l'aime tellement.
Non, on l'aime-tu?
Hein? Oh, qu'on l'aime.
Ouais, ouais. Elle est venue, on s'est vu un peu. On se voit pas beaucoup ces temps-ci. Là. On travaille tous les deux comme des forcenés, mais on s'est vu un peu aujourd'hui. Puis ça fait du bien. On a eu bien du fun.
Yes, je pense que ta blonde, elle va avoir du fun dans les prochaines semaines. On va avoir des tests approuvés de Planète X!
Ah oui, ma chérie, on va essayer des affaires, puis je vais en parler à la radio.
Yes, sir! Donc, toujours un plaisir de savoir d'où est-ce que vous nous écoutez. On est en live sur TikTok. Pour le moment, vous pouvez venir me voir, la sexploratrice. Un peu plus tard, je vous nomme qui est notre chère invitée ce soir. Vous pouvez nous texter au 418-670-9098 afin d'interagir avec nous ou directement nous contacter puisqu'on va prendre les lignes ouvertes. Ce soir, vous pouvez nous appeler pour poser des questions, pour interagir avec nous, pour partager des commentaires ou whatever, le 1-844-440-2464 ou le 418-670-9098. On a déjà des gens qui nous écoutent de Québec, de Drummondville, de Chambly. Wow! On est écoutés partout au Québec.
On est worldwide.
On est worldwide. Saint-Nicolas, coucou, en direct de ma voiture, Monsieur La Liberté.
Worldwide jusqu'à Saint-Nicolas.
Québec. Oh, on a quelqu'un qui fait du raccompagnement en TZ pour la soirée.
Oh!
Mais oui, c'est jeudi soir.
Hey, merci de faire ça, mon ami, on a besoin de toi.
Jeudredi, on a eu une belle entrevue avec Daniel, le fondateur, finalement, de TZ. Hein? C'était super intéressant.
C'est des petits héros sans cap, ces gens-là. Oui. Sincèrement, ces bénévoles-là, ils sauvent des vies.
On voulait l'essayer aussi. Il faudrait bien tenir parole et...
Ouais, ben moi, je conduis comme un pied. Là. J'ai plus l'impression que je vais détruire des vies.
Comme mon accompagnateur.
OK, c'est bon. Je vais être dans le siège d'à côté, yes. Puis je vais ramasser le type.
Mais TZ Capital National, qui est un partenaire de choix, 98h à Radio X, et c'est toujours super pratique là, de vous abonner. C'est une vraie farce, l'abonnement. Je crois que c'est même pas 75$ pour l'année, là, pour un service de raccompagnement. Puis,
pas grand-chose quand tu mesures ça au prix d'un ticket d'alcool.
Voilà. On a notre ami Louis Fréchette, fidèle auditeur de sa voiture. Et gratitude de la journée pour Éric, c'est qu'il a recommencé à travailler à temps plein. Bravo Éric, félicitations!
Félicitations Éric!
C'est le moment du thème de notre invité!
Le doc.
Le thérapeute compatissant, bienveillant.
Bonjour docteur.
Le docteur Paul Simard, psychologue.
Docteur Paul Simard, psychologue.
Bonsoir tout le monde.
Bon, ça va, Doc?
Bonsoir.
Ça roule.
Beau thème.
Ça roule, ma poule.
On l'aime.
C'est une suggestion d'une fidèle auditrice.
C'est vrai.
Qui m'a contacté parce que j'ai sondé les gens avant l'émission pour enrichir le thème. Puis on voit comment la communauté partage dans le show, c'est super.
Mais vraiment? C'est super le fun. On est en train de se monter une communauté, littéralement. C'est vraiment ben très
oui.
drôle.
Il y a des gens qui nous écoutent, c'est une bonne nouvelle.
Et voilà, 52,2% de part de marché quand même.
Yeah.
On dit assez souvent.
À chaque fois que tu as la chance de le dire, tu bragues.
Chaque fois que je peux le dire,
non, j'adore ça.
Je me brague.
Et famous.
Brague. Yes, sir! Rien de moins. Et Dr Paul Simard, psychologue, qui est notre seul collaborateur hebdomadaire.
Oui.
VIP, le psy.
Hein?
Ouais. T'es le seul qu'on aime pour vrai.
On t'aime, Paul.
Merci.
Donc, on a Eric qui continue de nous écrire. Hugo de Lévis, Louis, qui est mon ami Louis aussi. Louis Fréchette.
Salut,
ben
Louis.
Oui, Louis, salut. Donc, toujours un plaisir de vous lire. 418-670-9098 pour poser vos questions. Et ce soir, les sujets seront les relations toxiques, les personnes toxiques, et les red flags qu'on ignore en début de relation.
Et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont se reconnaître dans ce qu'on va dire à soi.
Oh.
Ou qui vont reconnaître des gens.
Absolument. Docteur Possima, une personne toxique, en fait, je pense que c'est vrai, tu as souligné quelque chose avant d'entrer en onde. On a tous été à un moment ou à un autre, ou presque, la personne toxique d'une autre personne. Ah. Peut-être même d'une autre personne toxique, finalement.
Oui, ça nous envoie à la réflexion, ça, hein, sur l'évaluation de c'est quoi ça, la toxicité? Puis on est-tu capable de s'auto-évaluer si c'est nous qui sommes? Est-ce que c'est une projection qu'on lance sur les autres? Ou on est capable de se le mettre?
Puis une personne toxique, on pourrait définir ça comment? Est-ce que systématiquement, c'est quelqu'un qui est négatif, qui te fait sentir mal, les caractéristiques, ouais. Là, j'en connais quelques-unes, je pense. Ben,
tout le monde a entendu parler de ce que ça veut dire. C'est une personne toxique. Hein? Tout le monde sait c'est quoi. Puis en même temps, on n'utilise pas ça, cette terminologie-là, dans les vraies classifications diagnostiques. Là.
Moi, pour moi, quelqu'un qui est toxique, là, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas à l'autre.
Ouais, ouais, ouais.
Dont tout lui est rendu, qui se transforme souvent en victime, qui est dans l'envie, la jalousie.
Il y aurait un côté de contamination.
Ah oui?
Puis on voit quelque part que c'est un terme qui est inspiré de la biochimie. C'est pas directement un concept de psychologie. C'est pour faire de la psychologie populaire qu'on utilise bien souvent des concepts d'autres sciences pour modéliser des explications psychologiques. Parce que sinon, c'est très philosophique, des fois, la psychologie. Fait qu'on essaye de le rendre un peu plus robuste.
Mais c'est sûr que de la contamination avec des personnes toxiques, parce qu'on n'a pas l'impression qu'on peut leur parler la plupart du temps.
Mm-hmm.
On a l'impression qu'on se bute à un discours qui est souvent fermé, qui est irraisonnable, qui n'est pas logique, qui est ancré dans les émotions.
Ouais.
Souvent bordélique.
Parfois, ça peut être sournois aussi. Il y a des personnes en couple qui sont toxiques et ça arrive sournoisement, là, la toxicité.
Oui, ça se fait par en dessous.
Ça se fait tranquillement, tu sais, à qui t'écris, pourquoi, je peux-tu voir?
On sent que c'est subtil, hein? Il y a un effet de confusion.
Oui.
Puis c'est insidieux, contrairement à la violence qu'on peut peut-être un peu plus facilement identifier à cause de son caractère destructeur, c'est massif. Bien là, dans la toxicité, il y a un empoisonnement implicite. Puis les gens, bien souvent, vont tolérer de rester dans une relation toxique parce qu'il y a des avantages secondaires. Où il y a une grande confusion qui s'installe.
Mais il y a plusieurs styles de toxicité, si je ne me trompe pas.
On pourrait dire ça.
Les plus flagrants et les majeurs, ce seraient lesquels?
Moi, j'aurais le goût de dire qu'il faudrait faire un détour par la notion de passion pour l'expliquer.
Moi, j'en aurais cinq. Est-ce que tu me permets de les nommer et tu me diras si je suis dans le champ ou pas? Il y aurait le narcissique parmi les comportements, les personnes toxiques. Il y aurait le narcissique qui est égocentrique et sans empathie. Il est persuadé d'être le meilleur. Il y aurait l'énergivore qui nous demande toujours plus d'attention et nous submerge de négativité.
Et qui n'est pas aimé par Hydro-Québec.
Qui n'est pas aimé,
une petite blague d'actualité.
Ensuite, on a le manipulateur qui essaie toujours de tout contrôler à votre place, qui vous fait sentir comme si vous étiez incapable. Le dramaturge qui adore les potins, qui juge rapidement, qui peut vous mettre dans des sacrées situations, là, pas le fun. Et le mytho qui ment à tel point qu'il s'y croit vraiment. Puis avec lui, vous êtes toujours constamment responsable de ce qui pourrait arriver.
Hey, c'est
donc,
bon!
C'est bon, hein?
Ouais, j'aime ça.
Ah, barouette!
J'ai trouvé ça en faisant mes petites recherches.
Belle classification.
Ouais.
C'est assez pour inspirer.
OK. Donc, ce serait pas mal un peu le topo des différentes, de cinq types de personnes toxiques.
Oui, on pourrait décrire ces grandes tendances-là comme étant des stratégies qui sont pas très respectueuses ou égalitaires. Donc, il y a un abus de pouvoir dans quasiment toutes les formes là, que tu as mentionnées. Autant dans la personne qui souffre de narcissisme, se penser meilleur que les autres, c'est un déséquilibre du pouvoir. L'énergivore aussi. Donc, je pense que ce serait ça le point commun. Déséquilibre du pouvoir, contagion. Puis, on peut aller jusqu'à l'aliénation. L'aliénation, c'est rendre l'autre étranger. Je veux pas de relation avec parce que l'autre, il est complètement empoisonné. Puis là... Donc, on voit le mouvement de rejet, de recul associé avec l'attribution de l'étiquette, là, personne toxique.
Ah, puis souvent, l'aliénation, c'est insidieux. On s'en rend pas nécessairement compte sur le coup.
Oui.
On est en train de se faire aliéner.
Puis les gens tolèrent de rester là-dedans parce que bien souvent, il y a des avantages secondaires, dans la confusion notamment. Parce que, je vais vous faire un pont avec la passion. Parfois, la personne toxique va vous idéaliser, puis va vous retourner comme une crêpe, puis là, va vous démoniser. Puis là, elle va dire, c'est de ta faute si je te parle comme ça. Là.
Ça, c'est voilà. Du gaslighting, hein?
Toutes les formes de manipulation.
Oh, ça, c'est une forme de gaslighting.
Oui, oui.
Ça, c'est d'être responsable d'une situation et finalement de rendre l'autre coupable de la situation dans laquelle on l'a mis.
Yes.
C'est créer de l'aliénation, c'est de la folie ça, pure et dure.
Ça, c'est fou, là. Puis ça arrive et la personne finit vraiment par douter d'elle puis de faire « Ah non, mais je suis responsable de tout ça. » Puis finalement, c'est pas ça, là.
Non.
Ah,
c'est une forme de manipulation aussi.
Ben, d'une certaine manière, oui. C'est pour ça que, tu sais, mais aux yeux de certaines personnes qui sont installées dans une dynamique, on pourrait dire, similaire, ça pourrait être tolérable. Fait qu'il faut pas juste regarder un comportement, hein. Faut regarder comment ça se situe dans l'équilibre de la relation.
Ouais, puis dans le... C'est sur la durée aussi, là. J'imagine que...
Ouais, c'est
ça. Peut y avoir de petites situations légèrement toxiques, mais
exact.
Il y a une différence entre ça et vivre avec une personne toxique, finalement.
Oui, bien, le niveau d'atteinte, on pourrait dire, va devenir de plus en plus grave à mesure que vous acceptez la contamination. Ça se peut même qu'il y ait des personnes qui doutent de leur droit à être en santé tellement qu'ils sont contaminés. Hein. Parce qu'ils remettent en question même leur légitimité sur le droit d'être. Hein.
Tellement qu'ils ont détruit, finalement.
Oui, c'est ça. Alors, ça peut aller très loin.
Une personne toxique, ça peut se détoxifier.
Oui, bien sûr. C'est pour décrire un mouvement, c'est une métaphore, là, comme je disais tout à l'heure, de biochimie. Mais le mouvement inverse est également possible. Moi, j'aime bien dire qu'on se contamine pour le meilleur et pour le pire.
Oui, mais ça va loin. On peut-tu dénarciser quelqu'un qui est narcissique à la base?
Bien
ça
sûr.
Se fait-tu, ça?
Bien sûr.
Oui.
Je fais ça toutes les semaines.
Quelqu'un qui est narcissique pourrait, par exemple, se rendre compte que ce qu'il fait, c'est pas bien.
Ben,
on pourrait mettre son nez dans le
bon
caca.
Début, là, puis... Parce que le vrai narcissique se rend même pas compte souvent qu'il l'est.
Ben, c'est
ça.
Mais
à partir du moment où il s'en rend compte, ben, est-ce que je me trompe?
Moi, je me renvoie. Là-dessus, j'utilise la terminologie un petit peu plus officielle qui serait trouble de la personnalité narcissique. Donc, il y a des critères diagnostiques. Puis, étant donné qu'il y a un pronostic qui explique les symptômes de la souffrance, il y a également un cheminement pour le guérir. Mais un peu comme les troubles de la personnalité limite, c'est peut-être pas la guérison dans le sens effacement des traits. Ça va plutôt être vers la conscientisation des symptômes puis des stratégies relationnelles. Puis là, en augmentant la conscience des choses, il est possible de développer des nouvelles compétences qui vont faire que la personne ne sera plus toxique.
J'ai envie de te reparler d'un cas, il me semble qu'on en avait parlé hors d'onde. C'est une auditrice, en fait, qui m'avait partagé son histoire d'infidélité. Ça fait quand même plusieurs années, au-dessus de 10 ans qu'elle est avec son amoureux, et elle a appris avant les fêtes que ça faisait environ 2-3 ans là, qu'il avait été infidèle. Il a été consulté, il s'est rendu compte qu'il avait des traits narcissiques, et là, veut à tout prix, elle voulait le quitter.
Ouais.
Et lui est convaincu qu'il peut changer, il veut... Là, elle est comme mélangée dans tout ça. Elle se demande, est-ce qu'il peut être vraiment sincère et pouvoir changer et redevenir fidèle? Ou est-ce qu'un narcissique peut réellement guérir? Ou ça, c'est comme...
C'est possible. Le monde des possibles, c'est très vaste. Et surtout, on n'a pas beaucoup d'informations présentement. Mais oui, c'est possible. Ça va dépendre de si la personne le fait pour elle-même ou pour l'autre. Parce que si elle le fait pour reconquérir l'autre personne, il est probable que la stratégie va s'effondrer dans les semaines suivant le fait qu'elle va l'avoir reconquérie. Mais si elle le fait pour elle-même, d'après moi, c'est possible.
Hey, ça doit pas être évident là, de reprendre avec son amoureux que tu sais infidèle et narcissique. Tu te demandes, c'est de la manipulation? Est-ce que c'est...
Mais tu as mis le point sur quelque chose que tu sais narcissique. Habituellement, je pense qu'on a des présomptions sur le narcissisme, mais on n'est pas 100% certain que quelqu'un est narcissique.
Là, il a été diagnostiqué.
Parce que, s'il a été diagnostiqué, là, c'est clair que tu t'embarques dans tout un bateau. Ça se peut qu'il prenne l'eau.
C'est ça, mais en même temps, il l'a admis.
Mais
il en est conscient.
Il
faut
travailler là-dessus. C'est
ça,
clair.
C'est un bon début.
C'est comme un athlète qui veut perfectionner son jeu. S'il est conscient de ses lacunes au niveau de son jeu, plus il va travailler, plus il va pratiquer, plus il va être en mesure de les corriger à long terme.
Oui.
C'est un peu ce principe-là, Doc?
Exactement. Ça va se construire. Puis c'est pas parce que la personne fait les premiers pas dans les premières étapes que l'ensemble du corridor, lui, est franchi. Là.
C'est un
chemin très difficile. Moi, j'aime bien comparer les traitements pour tout ce qui touche aux troubles de la personnalité ou aux traumas complexes. J'aime bien le comparer avec une traversée du désert. Ça va être rough. Même si vous avez un bon guide, même si vous avez des bons chameaux, même si vous avez une carte, ben pendant la nuit, les dunes de sable, des fois, ils peuvent changer de place avec les vents. Puis... Donc, c'est ardu de traiter un trouble de la personnalité, mais c'est possible. C'est possible. Ça demande un accompagnement. Ça demande aussi le désir de passer à travers la tempête.
Il y a ce trouble-là, et s'il est allé ailleurs et qu'il l'a trompé, là, je sais pas, je crois que c'était une maîtresse qu'il avait. Donc, c'est d'aller voir le problème sous-jacent. Qu'est-ce qui a mené monsieur à ça?
Oui, il y a différentes formes d'infidélité.
Voilà. Et je dirais aux gens qui ont vécu une infidélité, si vous décidez de pardonner et de retourner avec l'autre personne, il y a quelque chose qui est extrêmement important. Et là, on va parler du triangle de Gary Chapman. Tu as le sauveur, la victime et le persécuteur. Donc, la victime qui a été trompée, qui décide de reprendre avec son conjoint et de dire « OK, parfait, tu as été infidèle, je te pardonne, on continue. » Ce serait important de ne pas tomber justement dans une relation toxique où tu te mets à persécuter personne qui t'a trompé et que tu utilises ça constamment dans la relation. Si tu décides de reprendre, c'est un choix conscient que tu fais de retourner dans cette relation-là. Tu dois lâcher prise sur ce qui est arrivé, j'imagine. Ça ne doit pas être sain de revenir constamment sur l'histoire d'infidélité.
Je pense aussi que dans les débuts, par exemple dans la reprise d'un couple avec une infidélité, ça se peut que l'autre personne soit blessée puis qu'elle persécute sans s'en rendre compte. Je pense que c'est le devoir aussi de la personne qui a trompé de s'asseoir, d'avoir des discussions, de défaire les nœuds pour la faire sentir à l'aise.
Bien, c'est certain que rendu là,
c'est un travail d'équipe rendu là.
C'est ça. Puis j'imagine que c'est de donner des outils à l'autre pour regagner la confiance. Et je me rappelle, Doc, que tu as déjà donné un truc qui, moi, me paraissait pas sain, mais qui, finalement, pourrait aider. Et c'est de, oui, tu peux, pour rassurer la personne, sur un délai temporaire, là, tu peux montrer ton téléphone.
Oui, c'est ça. C'est parce que c'est pas le même soin dans la situation de crise, la révélation même, et sur le long terme, dans la durée. Puis souvent, les gens qui écoutent juste des extraits de balado ou de podcast, qui voient juste un bout de conseil, des fois, ça va les blesser profondément parce qu'ils disent « Ben voyons, je suis pas pour faire ça, ça n'a pas de bon sens.
» Mais
en réalité, il y a différentes étapes à différents moments donnés de la blessure. Puis une personne qui est complètement contaminée par la toxicité, des fois, elle n'est même pas capable de savoir « C'est quoi mon vrai besoin? » J'ai une petite phrase, moi, pour inspirer les gens là-dessus.
Je veux-tu faire un partage? Aime ça, les petites phrases.
Oui, OK, c'est... On ne perçoit plus la souffrance de l'autre lorsqu'on est aveuglé par la nôtre. Ça veut dire que quand vous allez avoir tendance à vouloir juger quelqu'un d'autre, à être brusque avec lui, c'est probablement parce que là, vous souffrez tellement que vous n'êtes plus en mesure d'aider. Fait que là, ça veut dire que c'est le temps de vous occuper de votre blessure. C'est plus le temps d'agir sur l'autre. Et les gens ont beaucoup de difficultés à tourner leur attention vers leur propre blessure.
Ouais.
Ben, ça fait tellement mal.
C'est le chien blessé qui te mord quand tu essaies de le guérir, au final. Là. C'est exactement ça.
Ouais, puis ça fait ça à l'intérieur de soi. Là.
Sans qu'on s'en rende compte.
Ouais, ouais.
Puis est-ce que c'est un terme qui est utilisé, ça, dans les classifications de diagnostic?
C'est ça. Okay. C'est pas j'ai réépluché le 3000 pages du texte. Là. Puis non, c'est pour ça que je disais que ça appartient à la psychologie populaire comme terme, les relations toxiques. C'est pour décrire un phénomène... mais on ne l'utilise pas là, de manière professionnelle. Je ne peux pas poser un diagnostic de toxicité. Là. Mais il y a des gens qui vont le penser qu'il y a un lien à faire avec toxique, toxicomane.
Ouais.
On voit le lien avec substance.
Oui, tout à fait.
Et c'est pour ça qu'il y a un pont à faire avec l'analogie biochimique. Là. C'est un terme qui appartient à la biologie. T'sais, ça se mélange. Il y a quelque chose qui, à force de se mélanger, la substance nocive va détruire un organisme.
Puis je fais quoi, mettons, je suis avec une personne que j'aime, disons quelqu'un dans mon entourage, là, qui est complètement imperméable aux commentaires que je peux faire à son égard relativement à sa montée de folie, à son zèle, à sa toxicité. Il s'en rend pas compte, puis même si on est tous là à y dire, il s'en fout. Ça écoule sur le dos comme de l'eau sur un canard. Qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de personne-là?
Pas évident, je le vis, moi, en ce moment, avec une proche. Là.
Ben c'est ça, t'es comme confronté à...
Puis là, mais le pire, c'est qu'elle en est consciente. Elle dit, j'ai même tendance à me victimiser, puis à mettre la faute sur l'autre. Elle dit, je sais ce que je dois faire, mais elle dit, je suis incapable de l'appliquer.
Bon, faudrait juste ajouter un petit bout de phrase pour la personne. Moi, je lui conseillerais d'ajouter pour l'instant.
Ah!
Fait que je suis incapable pour l'instant de sortir de ça. Fait que ça se pourrait que la personne ait besoin de faire un tour de manège de cauchemar supplémentaire pour tirer une leçon. Mais une fois qu'il est parti, le manège là, de cauchemar, on ne peut pas débarquer en plein milieu.
Mmh.
T'es pris dans le manège. Faut que tu fasses la run au complet. Même si tu vomis, même si tu perds connaissance, ça, même si c'est rough, tu vas faire le tour du manège au complet. Hey, c'est terrible, ça. Mais il y a des gens là, qui vont leur faire en boucle et qui ne prendront pas le temps de dire « Attends un peu, pourquoi je reste assis dans ce manège-là? » Bon, c'est la capacité de tirer une leçon. Puis là, j'ai une deuxième phrase inspirante pour vous là-dessus.
Ah, oh, qu'on aime ça! Je t'avais de faire des quotes sur les réseaux sociaux.
Oui, ben, OK. Ben, la phrase, ça serait « On ne résout pas un problème avec le même niveau de conscience qu'il l'a créé. »
J'aime ça,
c'est beau, ça!
Ouh, ça veut dire qu'il faut changer son niveau de conscience, de réflexion sur le phénomène de ce qu'on a enduré dans la relation toxique pour pouvoir résoudre la toxicité.
C'est prendre un pas de recul.
Oui! Puis le pas de recul, il va peut-être falloir l'enrichir d'expériences réparatrices, soit avec des lectures positives ou en s'exposant à des gens qui sont sains et respectueux.
Et attention de ne pas tomber dans le positivisme toxique!
Hey, j'aime ça, c'est bon ça! Que...
Doc Simon, qui va parler de ça maintenant, là!
Ah ben ouais! On devrait faire une conférence là-dessus.
Quasiment!
Hey, c'est-tu la première fois que vous vous entendez, vous autres?
Oui.
Oh oui.
Hey, c'est vrai. Non, mais j'ai bien appris la leçon.
Oui, hein. Oui, faut que tu dises comme un monsieur, il veut.
Donc, quelqu'un demande, est-ce que je peux avoir les coordonnées de Dr Paul Simard, psychologue? On va tout de suite renommer ton site web.
Donne pas ça au monde, c'est confidentiel, ça. D'accord. Mais c'est facile à trouver s'ils tapent ça sur Google. Ils vont taper le DR pour docteur, tu sais, Paul Simard, psychologue. Je suis partout.
Voilà, Dr Paul Simard, psychologue. D'ailleurs, il y a des bons ateliers en ligne que vous pouvez retrouver sur son site et sur mon site aussi maintenant. Et là, l'exploratrice et le psy, on va refaire une soirée comme on avait fait. Là. Il y a beaucoup de gens qui nous
entendent. On prend les questions pour refaire
oui,
ça.
Vous pouvez vous rendre sur melanietrudel.ca et on prend les questions dans le fond, dans la boîte aux questions et via l'exploratrice à commercialradiox.com. Mais là, on peut prendre des appels, OK? Vous pouvez nous contacter. Le 1-877-440-2464, c'est le numéro sans frais, pour nous appeler en ligne. Également, le 418-670-9098. Parce que je vois beaucoup de gens interagir sur le live TikTok et vraiment, vous posez de bonnes questions, c'est super intéressant. Mais là, on va tout de suite faire une petite pause pour poursuivre, parce que là, on a encore d'autres points à aborder, puis on va également parler des fameux red flags qu'on ignore en début de relation. Vous êtes à l'écoute de la sexploratrice sur les ondes de choix 98.1 Radio X.
La sexploratrice.
La sexploratrice.
Avec Mel Trudel. Radio X.
De retour avec la sexploratrice, Max Mel et Dr Paul Simard, psychologue. Toujours tellement intéressant quand t'es là, Paul, ça interagit en fou présentement sur le live TikTok, également sur le live de la messagerie. On avait Luc qui était en ligne durant la pause, mais il a raccroché. Il voulait nous parler d'infidélité, justement. Donc, Luc, tu peux rappeler le 418-670-9098. Mesdames et messieurs, ne vous gênez pas, on prend les appels, on échange avec vous et Doc Simard pourra par la suite analyser. Moi, j'ai une théorie, Doc.
Oui.
Dis-moi si c'est pas fou, ma théorie.
Ça a du bon sens.
Les red flags
ouais.
qu'on ignore en début de relation
ouais.
sont souvent, finalement, la raison pour laquelle on quitte la relation.
Ça a du bon sens.
Ça a du bon sens.
Prochaine question.
All right.
Mais c'est quoi? C'est parce qu'on est ouais. aveuglé par tout le beau puis on
veut.
Se dit...
On veut vraiment.
On veut vraiment que ça marche, ah, donc... Ouais. On passe par-dessus des red flags ou des trucs qui nous gossent vraiment en se disant...
Ça pourrait ça... peut-être. C'est peut-être moi qui ai un problème.
C'est peut-être moi qui ai un problème. Ça va passer. Ou... Ouais. Et finalement, au fil du temps, tu acceptes tout ça. Puis là, au bout de 3 ans, 5 ans, 7 ans,
boum.
T'es plus capable de ce qui te gossait. Ouais. Mais la personne, là, elle comprend rien. Elle sait pas, elle, que ça te gossait.
Je vois souvent des gens qui se séparent en thérapie de couple pour les mêmes raisons qu'ils ont forgé le couple ensemble au début.
Pour vrai?
Ah oui.
Wow.
Autant qu'ils se sont intéressés à la différence de l'autre puis que ça les excitait, que cette différence-là vient m'amener à le taper ses nerfs. Wow. C'est pour ça que la satisfaction conjugale, ça repose sur la similitude. Mais c'est peut-être moins attirant, la similitude, que la différence.
C'est plus doux.
Fait que, ouais, mais il y a une espèce de dilemme là-dessus, là, sur est-ce que je veux la grosse excitation? Ça, va falloir aller vers la différence alors. C'est... Ou est-ce que je veux quelque chose de calme et de doux et de sain? Ça, c'est peut-être la similitude.
Il y a plus de passion dans la différence.
Oui, mais c'est moins attirant.
Oui.
Fait que là, c'est un choix difficile. Puis souvent, il va falloir avoir essayé plusieurs expériences ou travailler sur soi pour reconnaître que cette grosse attirance-là masque des red flags.
Est-ce que les personnes dépendantes affectives ont tendance à passer davantage par-dessus les red flags que les personnes sécures, disons, ou c'est commun, là, c'est assez
fréquent? Je ne sais pas, mais c'est parce que moi, dans ma définition des personnes dépendantes affectives, ça serait relié avec la déresponsabilisation de soi. C'est quelqu'un d'autre qui est responsable à leur place. Donc, c'est pas forcément...
Mais je pense que ce que tu dis, ça peut être vrai. Parce que quelqu'un qui est dépendant affectif est aussi prêt à tout pour être en couple.
Oui.
Il va s'oublier pour l'amour. Tu sais, il est amoureux de l'amour, à quelque part, là.
Ouais.
Oui, c'est ça. Parfois même, on a l'impression que... Mais peut-être que ça peut même rejoindre les relations toxiques. Une personne toxique ou une personne très, très dépendante affective, j'ai l'impression qu'elle pourrait être en amour avec ce que la personne peut lui apporter ou peut faire plus que la personne elle-même. Je sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire?
Ouais.
C'est comme si on passe par-dessus plein de trucs.
C'est l'idéalisation qu'elle se fait et non pas... Ouais, c'est ça, le critère plus réaliste de l'amour ici, ça serait l'admiration et non pas l'idéalisation. L'admiration, c'est basé sur les choix et les réalisations de la personne. Donc, regardez qu'est-ce qu'elle fait, comment elle choisit, comment elle résout ses problèmes. Puis si vous êtes capable de dire « Wow, c'est bon, comment elle choisit! » Oh, là, vous avez probablement plus un partenaire sain devant vous que oh, « C'est le plus beau, c'est la meilleure, c'est là, il n'y a pas de... » Ça, c'est de l'idéalisation. C'est un des chemins de la passion, de la souffrance qui va bientôt se déchirer en red flag.
On a quelqu'un sur le live qui dit qu'elle a été qu'elle est dépendante affective. Elle a vécu la violence par un narcissique et elle cherchait sa valeur au travers de lui.
Oui.
Puis c'est un peu ça le danger en fait des relations toxiques, c'est que tu finis par tellement vouloir, surtout si tu as la peur de l'abandon en plus de tout ça, là, tu veux tellement plaire, tu as tellement peur d'être abandonné que... Tu vas tout faire pour obtenir la reconnaissance de la personne toxique ou du narcissique jusqu'à te perdre, là, littéralement.
Ben moi, j'aurais le goût de dire que c'est relié avec l'aliénation. T'sais, l'aliénation, c'est étranger à... Donc, une personne qui devient étranger à elle-même va beaucoup s'accrocher à quelqu'un d'autre autour. Fait que c'est là qu'à quelque part, il y a des étiquettes de narcissique qui vont se placer. Là, parce que l'autre ne devrait pas être responsable de vous si vous êtes un adulte. Ça devrait seulement être une dynamique éducative envers un enfant, ça, prendre des responsabilités à sa place. Mais on ne mature pas tous à la même vitesse, on ne grandit pas en autonomie.
Serais-tu d'accord avec ça qu'on enseigne à la fin de secondaire ou au début de l'âge adulte, là, tout ce qui est style d'attachement, les langages?
Je pense que les enfants vont rien comprendre de ça.
Non, je ne serais pas d'accord.
Les ados,
moi non plus.
Non?
Non.
Non.
Non. Hey, en Norvège, là, on en parlait, là, donne des cours d'empathie, des cours de, tu sais, pour aider son prochain. Là. On dirait qu'on fait rien ici, nous autres. Là, on apprend tout sur le tas.
Des cours d'empathie, de compassion, peut-être. Là, si tu présentes des exemples concrets de comment un humain est censé réagir à un événement X, peut-être que ça peut être bien, mais apprendre les langages amoureux, je pense que c'est trop abstrait.
Pas nécessairement le langage amoureux, mais les blessures, tu sais, je veux dire.
Les styles d'attachement, c'est abstrait aussi.
Ouais. Mais c'est parce que...
Puis tu veux pas mettre des idées dans la tête des jeunes non plus.
Ouais.
C'est ça. Mais toi, ce que tu proposerais, je le verrais beaucoup comme étant une compétence relationnelle. Alors que selon moi, l'école vise beaucoup plus à créer des compétences culturelles.
Dans l'instruction.
Ouais, c'est pour s'intégrer dans une culture,
ouais,
l'école.
Ouais, effectivement.
Alors que la réparation relationnelle... C'est peut-être dans la famille que ça devrait être
réparé. Comme la sexualité, finalement.
Ouais, je pense que c'est ça. Étant donné que c'est le point intime, même si les gens vont beaucoup gagner à avoir de l'éducation sexuelle à un moment donné.
Il y a des choses qui sont tellement floues qui prennent juste tout leur sens le moment où tu le vis.
Eh oui.
C'est comme ça qu'on apprend. Des fois, on a besoin de se mettre un genou à terre, de se l'érofler bien en masse, de se mettre un plaster dessus, de l'enlever à corps, de l'érofler pour comprendre.
Est-ce que c'est vrai ça que on a besoin de vivre des relations avec quelqu'un qui est également blessé? En fait, est-ce que c'est vrai qu'on a tendance à vivre des relations dans lesquelles on se blesse et on se reblesse jusqu'à ce qu'on en guérisse pour finalement trouver ensuite une relation hyper saine et douce?
Il y a des gens qui vont se blesser toujours. Mais moi, l'explication que je donne à mes clients en consultation là-dessus, c'est de dire qu'on ne peut pas cliquer sur le plan intime avec quelqu'un qui est très différent de nous sur le plan affectif. Donc, si vous portez beaucoup de blessures non traitées, selon moi, vous allez connecter avec des gens qui sont très blessés, eux aussi. Mmh. Là, tout d'un coup, vous changez, vous développez votre maturation, vous prenez des décisions différentes. Puis là, il y a quelque chose qui mature en dedans de vous. Puis là, des fois, il y a des gens qui étaient déjà dans votre entourage que vous n'auriez jamais pensé que vous cliqueriez avec eux. Mais parce que ça a changé intérieurement, c'est comme la capacité de s'entremêler qui change de niveau.
OK.
Puis là, tiens, on l'a tout d'un coup, on clique mieux avec quelqu'un.
Très intéressant. Il y a quelqu'un qui mentionne qu'il se fait suivre par le décologue. Ben, voyons, dyslexique dans ma question. Je me fais suivre par un psychologue et je découvre que j'ai de la difficulté avec la vérité. Par peur, cela a nuit à ma dernière relation, car l'amour que j'avais pour elle, ben, je ne l'avais jamais vécu. J'ai bientôt 40 ans et elle est la première vraie amour de cœur. Oh, ça, c'est triste, par exemple. Donc, la difficulté avec la vérité.
Ouais.
Mais il y a des gens qui sont mythomanes.
Oui, c'est ça, les mensonges chroniques.
Oui.
Mm-hmm. Moi, je pense que c'est relié avec une stratégie de survie, ça, le mensonge.
C'est un mécanisme de défense.
Oui, parce que si vous êtes menacé, puis que votre vie vous dit « Toi, est-ce que tu fais partie de la gang qu'on veut tuer? » Puis là, non, 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 moi, je fais pas partie de cette gang-là. » Vous venez de vous sauver la vie. Donc, le mensonge a une fonction protectrice à la base.
C'est aussi une façon de fitter partout. D'être capable de s'acclimater à n'importe quel environnement.
Oui, c'est ça,
dissimulation.
Exactement.
Fait que si c'est une stratégie de survie, ça veut dire aussi que c'est pas une stratégie reliée au bonheur. Fait que si vous utilisez, vous, là, des stratégies de mensonges chroniques, probable que vous allez survivre. Mais vous venez de vous interdire l'accès au bonheur en même temps.
Oui, parce que vous allez être personne au final.
C'est ça.
Si vous mentez sur tout et n'importe quoi,
votre
identité, elle est où? Elle existe dans quoi?
C'est un faux soi fictif
qui
est basé sur la recherche d'avantages secondaires. Puis à un moment donné, les gens ils deviennent un personnage secondaire de leur propre vie.
Et ça se peut que ces gens-là qui mentent constamment comme ça, ils vivent pour l'amour des autres seulement.
Ouais,
leur amour propre, peut-être qu'il existe plus ou moins.
Ouais, moi, je vois souvent que c'est relié avec le stress.
Le stress?
Le stress, tu sais, les mensonges, j'observe qu'ils s'accentuent de manière générale quand une personne est stressée. Parce que c'est comme si s'ils sentent une menace, ils vont avoir tendance à vouloir se protéger davantage. Fait que c'est le premier angle que je travaille, moi, en thérapie, quand les gens me disent qu'ils sont des menteurs ou qu'ils ont menti beaucoup dans leur vie. J'examine leur rapport au stress.
Puis là, on parle de mensonges pour cacher la vérité, des trucs comme ça. Mais il y a des gens qui comptent de petits mensonges, en fait, toujours dans le but que de se vanter ou de...
Les mensonges.
D'inventer...
Blancs, qu'on appelle.
Mais
ouais,
c'est ça.
Tu sais, des fausses réussites ou des trucs comme ça, là.
Exact.
Il y en a des gens là, qui créent ça, là.
Mm-hmm.
Pour savoir si on est dans une relation toxique, donc je vais te sortir d'autres éléments que j'ai trouvés. Dis-moi si ça fait du sens. Donc, si vous, si cette relation-là vous épuise émotionnellement, si vous doutez constamment de vous, des pensées et des interprétations, finalement, vous faites toujours des interprétations, tu t'isoles petit à petit, tu te tais pour ne pas créer plus de conflits, tu marches sur des œufs, puis tu ne te sens pas respecté, considéré, tu ne sais plus t'es qui. Ça, c'est l'aliénation, finalement.
Exact, c'est pile ça.
Puis quoi que tu fasses, quoi que tu vas dire, ça fera jamais. Donc, tout ça, c'est quand même des éléments. Là, si tu te sens un peu comme ça, tu es clairement dans une relation toxique. Là.
C'est des bons indicateurs.
C'est au quotidien, là, surtout.
Oui.
Mais c'est tellement sournois.
Moi, je pense qu'il y a un autre marqueur, ça serait l'intensité de la relation. Parce qu'il y a un niveau, à un moment donné, où c'est plus sain, l'intensité, là. Ça dépasse toutes les limites, ça déraille de partout, ça craque. Alors que le bonheur, c'est quelque chose de très calme. C'est apaisant.
C'est ça, hein? Le bonheur, c'est plus doux, mais c'est plus stable. Alors que la passion et le
stimulant.
Les étincelles.
Hop!
Ah oui.
Puis t'as des downs intenses. Puis là, ben, quand tu reviens une lune de miel,
j'en veux
finalement,
encore
t'es encore plus intense. C'est comme une drogue,
ouais,
là.
C'est là, on embarque dans le cycle de la violence. Tension, violence... Lune de miel, qui retourne à une tension, qui redérape dans la violence.
Puis dans une relation toxique, il n'est pas obligé d'avoir de la violence nécessairement, mais c'est
non,
juste
c'est
pas sain tout ça.
Exact,
là.
C'est le même, on pourrait dire, la même configuration de déséquilibre et d'excès.
Ça veut-tu dire que le bonheur est destiné à être éphémère? À toujours être entrecoupé de périodes où justement il y a des hauts et des bas?
Étymologiquement, c'est ça que ça veut dire. Bonne heure, ça veut dire le bon. Heure, ça voulait dire c'est positif, là, c'est temporaire.
Ouais.
Heureux, l'heure du bonheur. C'est temporaire et transitoire.
Oh, ça, c'est comme la langue des oiseaux, hein, quand on prend des mots.
De manière
mots
similaire,
ça.
Mais ça, là, je te parlais d'étymologie fondamentale du mot. Là. C'est pas juste un jeu de mots, c'est l'origine du mot.
Wow!
C'est comme tous les états, et on peut pas les maintenir. On peut pas rester heureux. On peut pas rester non plus triste. On peut pas rester joyeux.
Mais on pourrait rester zen, non?
On peut pas rester heureux.
Non.
On peut pas rester zen.
Tout est en mouvance, tout est en constant genre.
Exact.
Mais le maximum de temps, mettons, là, qu'on peut être heureux, là, mettons que vous avez une
Ça dépend de toi, ça.
On n'a pas ça toujours les ressources disponibles pour ça. Puis on fait face à des événements aléatoires, imprévus, qui viennent chambouler nos ressources parfois.
Ils peuvent venir chambouler les ressources, mettons, une coupe d'heure, puis après ça, tu retombes heureux, là.
Mais il y a des gens aussi qui ont une plus grande blessure intérieure.
Je veux être heureuse tout le temps.
Ouais, c'est ça. Hein?
Il y a des pilules pour ça, je te parlerai de ça après le show.
Mais on a quelqu'un là, sur la ligne. Oui. Mais Doc, tu allais ajouter quelque chose juste avant qu'on prenne l'appel.
Toi, t'es bonne pour rester dans le positif, je trouve. Tu as l'art de nuancer ces choses-là pour garder le sourire dans
en
la
fait,
vie.
En fait, moi, depuis que je sais qu'il me reste à peu près là, 12 900 quelques jours à vivre, je choisis mes combats.
Ah, c'est pour ça.
J'ai lâché prise sur beaucoup de choses sur lesquelles je n'avais pas le contrôle. Et j'ai décidé de faire de ma vie, chaque jour, la plus belle journée de ma vie.
Ah, wow. Ça, c'est pas facile.
Ben là, ça fait un bout que ça dure.
Pour les gens qui nous écoutent, là, qui essaieraient de faire ça depuis X temps, combien de temps ça t'a pris avant d'en arriver à être capable?
Ça a pris un bon 42 ans.
C'est ça qui arrive.
La semaine passée.
La semaine passée.
Parce qu'à l'époque, j'étais un peu comme ça aussi. Mais justement, j'étais entourée, en fait, j'étais en couple avec une personne très, très, très... toxique, très négative, qui venait comme toujours me « Voyons donc, ça se peut pas que tu sois tout le temps de bonne humeur. Voyons donc, ça se peut pas que... » Ça venait comme m'éteindre un petit peu. Puis j'ai fini par m'éteindre, littéralement.
Ouais.
Mais on dirait que... Je sais pas. On dirait que je vois tout. Je vois des gens autour de moi qui vivent tellement des choses graves, intenses. Encore hier, on a reçu Mélanie, qui est la survivante de l'accident là, du Winnebago qui s'est écrasé sur le traversier de Tadoussac. Une entrevue hyper touchante. On a parlé également de Gaétan, qu'on va aller voir, qui a fait un ACV. Je pense à Bob Bissonnette, qui est décédé, qui est un ami aussi. Lui, là, quand moi, ça va pas, là, il apprendrait ma place.
Mm-hmm. Donc, toi, ton moyen, c'est de te ramener à un peu la souffrance des gens qui t'aiment, que tu as eu près de toi.
Ça te ramène dans le moment présent? Ben, dans le moment présent, je me dis, hey, je suis pas en danger de mort, là.
Ouais.
Fait que tout devient comme plus futile, on dirait.
C'est une bonne technique.
Je fais pas de déni. Je dois faire face quand même à des difficultés pis à des... Mais on dirait que je vois tout moins pire qu'avant.
Ouais, ça l'allège un peu.
Ouais. Puis si j'ai un conflit à avoir avec quelqu'un, je vais l'aborder, mais sans être dans l'attaque. J'ai beaucoup revu, surtout depuis qu'on travaille avec toi, Doc, là, ça m'a vraiment amené à revoir beaucoup de concepts puis beaucoup de façons d'aborder...
Dirais-tu que tu es une femme qui n'est pas orgueilleuse?
Ah non, je ne suis pas orgueilleuse.
C'est ça, hein? Ça, c'est une des grandes raisons de pourquoi tu es capable de faire ça.
Voilà.
Parce que je pense qu'on comprend tous le concept de choisir son combat, de lâcher prise. Le comprendre, c'est une chose, mais le mettre en pratique, ça en est une autre. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui te fait chier de juste lâcher prise, c'est pas évident parce que tu as des émotions en dedans de toi qui bouillent, qui s'articulent, qui veulent que tu dises des affaires, qui ont besoin d'être extériorisées.
Ouais.
De comprendre ça et de l'appliquer, c'est deux choses complètement différentes. Mais l'orgueil, c'est peut-être une des bonnes raisons pourquoi elle est capable.
Ouais, tu as peut-être réussi à dissoudre ton orgueil ou peut-être que tu en as moins.
Mais j'ai jamais été tant rancunière. J'ai toujours pardonné à tout le monde dans la vie.
C'est un beau cadeau à se faire, ça. Mais parce qu'on peut le travailler. Mais il y a des gens qui vont... de base, avoir une plus grosse blessure intérieure et donc
rancune,
une plus grosse défense par-dessus cette blessure-là. Il y a d'autres personnes qui vont blesser leurs proches à force de se défendre. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Là.
C'est
comme un éléphant dans la pièce qui aurait des pics autour de lui, de son armure. Il blesse tout le monde autour. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Et c'est possible de guérir ça.
Très intéressant. On a quelqu'un en ligne.
On va aller le voir. Radouix. Radouix, votre nom.
Allô, à qui on parle?
Radio X, vous êtes en ligne.
Personne partie.
3, 2, 1, vendu, il n'y a personne.
Oh! Bon. Appelez-nous au 418-670-9098, 1-877-440-2464.
On fait quoi, par exemple, si on est avec une personne toxique avec qui on n'a pas le choix d'être? Par exemple, on vit avec cette personne-là, on a des responsabilités. Et parce qu'elle est toxique, elle nous rend toxiques. Nous aussi, on est pris dans une espèce de cercle infernal.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces situations-là, par exemple, pour préserver notre santé mentale et s'assurer qu'on continue à vivre sur le sens du monde?
La première affaire à apprendre, je pense que c'est de savoir qu'il est normal d'être influencé par les gens que vous allez côtoyer. Donc déjà, c'est normal. C'est normal que la personne vous infuse tranquillement pas vite de son poison. Et la deuxième affaire, ça serait d'apprendre la désidentification. Ça veut dire que de l'intérieur, il faut créer de l'espace pour s'observer. Puis on pourrait dire, comme si on observait un tableau, c'est quoi le titre du film toxique là, que cette personne-là essaye de te faire écouter?
Comme si on joue aux Sims.
d'une certaine manière.
Tellement.
Ice cream so good.
Ice cream so good. I like that.
Non, tombe pas là-dedans. Là.
Et puis, la désidentification, c'est un concept qui a été développé notamment avec des théories ensuite, du bouddhisme, c'est relié à la vacuité. Le non-être ou la non-interpendance. Donc ça, c'est relié avec la dissolution de l'ego.
Ah, ben voilà.
Mais avant de dissoudre son ego, il faudrait peut-être lui laisser jouer son rôle, comprendre à quoi il sert, comment il est contaminé, comment il craque, comment il attaque les autres. Puis là, une fois qu'on l'a bien compris, on peut progressivement apprendre à laisser aller ces défenses-là. Mais c'est comme s'il faut prendre le relais consciemment des défenses pour que ces défenses-là, il n'y ait plus le monopole sur nos réactions.
OK. Est-ce qu'on essaye de sauver l'autre personne?
Non. Parce qu'on n'est pas le responsable des décisions de l'autre. Ça se peut que la personne, elle ait envie d'être malheureuse.
On n'essaie pas de lui faire comprendre quoi que ce soit.
On peut l'aider, tendre la main à quelqu'un. Moi, je trouve ça très beau, là. Moi, je tends la main à plein de gens en consultation. Puis même s'ils viennent dans mon bureau pour se faire aider, ils m'attaquent quand même des fois.
Ah, c'est fascinant, ça.
Parce que les gens ont tellement mal que des fois, on touche à leurs blessures. Puis ils sont même pas en mesure de contrôler leurs réflexes de défense. Là. Fait qu'ils m'attaquent. M'attaque de toutes sortes de manières, en attaquant le bureau, mon apparence, mon accent, mes fautes d'orthographe. N'importe quoi est bon à attaquer pour déverser la souffrance. Donc, c'est là que ça va demander une grande ressource d'autocompassion, d'abord envers sa propre blessure qui s'agite à l'intérieur de soi. Et là, ensuite, on verra si on tend la main à l'autre personne. Mais prenez pas la responsabilité sur l'autre. Si vous le faites, c'est possible des fois de le faire, mais il faudrait que ce soit à court terme.
Tu m'emmènes ailleurs, OK? Tu sais, les gens là, qui commentent des trucs vraiment négatifs, ouais. Vraiment pas fines sur les réseaux sociaux et tout. Ça, c'est des gens, j'imagine, parce que tu proposerais à la personne de venir te dire la même affaire en pleine face en rue.
Elle
là.
Le ferait pas.
Elle le ferait pas. Mm-hmm. Qu'est-ce qui explique? C'est quoi? C'est derrière l'écran, ça leur donne comme le pouvoir de vomir leurs émotions comme ça, gratuitement?
Ben, moi, j'ai plusieurs théories là-dessus, mais il y en a une dans les recherches sur les comportements sur le web, là, un critère qui s'appelle la relative anonymat. C'est comme si ça crée une distance où la personne, elle sait qu'elle peut se sauver. Puis notamment, elle n'est pas vraiment toujours bien identifiée hein, sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des gens qui créent des faux comptes.
Oui.
Ou qui utilisent des comptes anonymisés. Puis là, ça leur ajoute de la légitimité.
Créer des comptes au nom de d'autres.
À faire mal. Oui, c'est ça aussi.
Oui, on a vu ça.
C'est arrivé,
toi?
Oui, récemment.
Ah, c'est ça. Puis, à quelque part, ces personnes-là, on ne peut pas toutes généraliser leur souffrance sous un principe, mais moi, j'aime bien le résumer en disant que ils vont aller salir quelque chose de fort et de beau sur la place publique pour s'attribuer un sentiment de contrôle. Pour avoir l'impression d'être fort, ils vont aller salir de quoi de beau. Ça donne comme une légitimité d'exister si je m'attaque à quelque chose. C'est le pouvoir de la destruction. C'est accessible à tous, ça, le pouvoir de la destruction.
C'est anarchiste, facile, un peu.
Mais par contre, le pouvoir de la construction, ça, c'est beaucoup plus laborieux. Donc, une personne qui souffre beaucoup pourrait avoir tendance à vouloir détruire pour avoir une illusion de pouvoir.
Il y a quelqu'un qui mentionne sur le live que sa mère était comme ça, elle critiquait tout le temps. Même que ça crée de la compétition entre sa sœur et elle. Imagine à quel point c'est pas sain. Ouais.
Donc, c'est des gens qui ont besoin de détruire pour se construire eux-mêmes, autrement dit.
Ça pourrait être une hypothèse qui me semble, moi, assez répandue. Là. Je pense que si on tient cette piste-là, on n'est pas loin de la réalité.
Wow.
On a quelqu'un en ligne, on va y aller?
Oui.
Radio X, votre nom?
Oui, Pierre.
Salut, Pierre, comment ça va?
Ça va bien. Hey, j'écoutais le docteur. Le nom m'échappe.
Docteur Paul Simard, psychologue.
Oui. OK. Il parlait de quelqu'un qui est en souffrance. C'est-tu plus la souffrance morale ou la souffrance physique peut aussi faire en sorte que la personne va s'attaquer à l'autre?
Bien, j'imagine que oui. Doc, on va. Est-ce qu'on peut garder monsieur en ligne quand même?
Oui, c'est une bonne question, je trouve. Puis ça nous parle des fois de la confusion que les gens ont entre le terme douleur et souffrance. Mais dans le cerveau, c'est les mêmes aires cérébrales qui connectent puis qui s'expriment la douleur. Donc, quand on parle de douleur morale, c'est là qu'on parle de souffrance. Et quand on parle de douleur physique, là, c'est là qu'on devrait rester sur le terme douleur.
Ouais.
Douleur, mais la douleur physique peut venir quand... devenir vraiment, là, ça fait notre morale et notre mental.
Exact, c'est les mêmes aires cérébrales qui sont stimulées, mais des fois, il y a des gens qui vont résister contre la douleur physique puis qui vont créer un deuxième niveau de souffrance par-dessus la souffrance qu'ils avaient déjà, la douleur, je veux dire. Donc là, s'empile douleur et souffrance d'une par-dessus l'autre, devient encore plus dur.
Tantôt, on parlait de la définition des mots.
Ça me parle beaucoup, là.
Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis présentement?
Ben là, c'est fini parce que la personne est décédée lundi.
Condoléances. Merci.
Merci. Merci. C'est un cancer fulgurant et les derniers 3 mois ont été très, très, très difficiles. Ouais. Et la personne, il y a quelques années, avait souffert, je ne sais pas si on peut dire souffrir, là, mais d'une dépression grave. Elle s'en est remis. Puis par après, est arrivé l'épisode du cancer. Et c'est affigurant pour passer à travers. Elle est décédée lundi, c'est ma conjointe. Et elle était très agressive.
Ouais. Ça, par exemple, je pense que ça peut physiquement avoir un...
Il y a 2 semaines, là, quand on est arrivé à la maison de soins de fin de vie, ça s'est calmé.
Ouais. J'ai connu quelqu'un aussi qui a vécu un cancer du sein et dans les derniers mois, je pense qu'il y a peut-être quelque chose de biochimique là, qui se crée dans le corps qui fait que la personne est beaucoup moins, beaucoup plus impatiente. Puis vraiment, là, elle était méconnaissable. Et je me demande si c'est pas peut-être aussi la peur ou de savoir que la fin s'en vient. La personne se sent complètement...
C'est sûr qu'il y a ça là-dedans.
Oui, c'est ça exactement. Donc, tu te sens impuissant, tu sais que tu t'en vas vers la mort, donc t'en veux à la terre entière, peut-être.
Il y a des gens qui vont résister dans le processus de fin de vie, hein, parce que c'est pas quelque chose qui est facile à accepter pour tout le monde.
Hein. Mais non.
Résister beaucoup, aller jusqu'à il y a 2 semaines, jusqu'à temps qu'elle sache quand je suis allé à la maison de soins de vie. La maison de soins de vie, elle avait... La résilience s'était installée et elle avait abdiqué, là.
Ouais. Merci beaucoup pour ton appel. On t'envoie beaucoup de courage, nos sympathies, puis merci d'avoir appelé.
Merci, au plaisir.
Merci. Merci, Pierre. Pas facile,
Imagine.
Ça.
Mais non.
Ah oui.
Ça m'a un peu shaké, là. Tu sais, je trouve ça tellement triste que des gens vivent des trucs comme ça. Puis, regarde, il y a quelqu'un qui dit un animal qui souffre, ça peut être très agressif. Mais oui, c'est ça, c'est sûr. C'est une façon pour toi de réagir. La maladie, mal à dire.
Ça, c'est le langage des oiseaux, ça.
Ça, c'est le langage des oiseaux. Ouais. Alors que tout à l'heure, tu as vraiment donné
c'est
de véritables termes. OK,
pas
parfait.
La même chose.
Bon, non, mais moi, j'adore la langue des oiseaux. Là. Ouais. Je pense qu'on va en faire
un épisode complet.
Une petite chronique à un moment donné. Donc, on pourrait peut-être, je ne sais pas si toi, tu aimes ça aussi, mais moi, j'aime bien ça.
On fait un lexique de la langue des oiseaux.
Un lexique de la langue des oiseaux.
Sur le plan symbolique, c'est mélangé avec toutes sortes de trucs liés aux croyances. Puis j'adore ça sur le plan. Pour comprendre l'articulation de l'esprit humain, c'est super.
Ouais, c'est intéressant.
Et donc, est-ce que tu crois qu'il y a quelqu'un qui reçoit, par exemple, un diagnostic de cancer, sa façon d'absorber la nouvelle et de voir la suite, si la personne demeure dans des pensées positives et tout, est-ce que tu penses que ça pourrait aider à passer au travers versus une personne très négative qui reste super triste et tout ça? Est-ce que tu penses que ça peut avoir un impact ou pas du tout, selon toi?
Pas médecin, fait qu'il faudrait que je m'abstienne de me prononcer là-dessus. Mais sur le plan psychologique, les personnes qui ont le cancer, on pourrait dire que résister contre le cancer,
maladie.
Avoir des pensées négatives ou des émotions, des sentiments qui sont nourris contre la maladie, ça, c'est un facteur fragilisant.
Puis j'ai l'impression que si tu restes dans des pensées positives, tu vas peut-être te lever le matin et aller prendre des marches, tu vas peut-être mieux t'alimenter, tu vas peut-être t'entourer de proches qui vont te donner de l'amour.
Des actions positives.
Ouais, c'est ça. Exact, tu vas rester dynamique, tandis qu'au contraire, si tu te mets à te taper sur la tête et à te dire que tout est fini, ben tu vas tomber tout seul chez vous, à rien faire, tu sortiras plus, ça se peut que ça arrive.
Comme quand on parlait de loi d'attraction, sur quoi on était semi-d'accord, tu me disais, ben tu vas rester en croyant la loi d'attraction, tu vas être plus alerte aux opportunités et aux choses qui vont t'amener vers ce que tu souhaites atteindre, finalement.
Eh oui.
C'est pas fou, là.
Ben, c'est ça, ça t'ouvre les yeux puis ça te permet de reconnaître les signes ou d'en inventer presque.
Eh oui. Mais ça, c'est tellement manipulable, l'attention, là. On pourrait faire un petit test.
Oui.
OK, les gens, là, regardez dans votre environnement autour de vous, qu'est-ce qui est rouge, OK?
Paul.
Regardez qu'est-ce qui est rouge. Vous voyez les choses rouges? OK, bon, ben, maintenant, fermez vos yeux et essayez de vous souvenir de tout ce qui était bleu dans votre environnement.
Ah, tu fais chier!
Tu fais chier!
Donc, vous voyez, c'est que l'attention, vu qu'elle cherchait du rouge, était aveugle au bleu.
Elle a oublié tout le reste.
Des fois, dans la vie, avec la loi de l'attraction, on peut l'interpréter comme ça. C'est si vous cherchez le bonheur, vous allez avoir tendance à le trouver.
Hey, mais négatif. Ça, c'est-tu comme l'amour?
Mais oui.
Quand on l'amour dit que l'amour rend aveugle.
Non, ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est la passion, ça, qui rend aveugle.
OK, mais parfois... oui, OK. Mais si on aime tellement quelqu'un...
C'est ça,
qu'on...
la passion. T'es passionné par quelqu'un.
Ça crée des distorsions, des illusions.
Parce
on
que l'amour
plus la
sain, là, okay, l'amour moi, sain, je pense que t'es assez éveillé. C'est moins c'est intense ça. Que la passion, donc t'es un peu plus alerte.
T'es plus calme par
t'es
rapport
à ce que intense, tu vis. Moins intense, mais c'est plus doux.
Oui, c'est ça.
Ah, oh, c'est beau.
C'est dur pour la première phase de l'attirance, tolérer le doux. Parce qu'on est des animaux, hein, qui aimons ressentir des choses physiologiques. Fait que les mécanismes de l'attirance et les mécanismes de l'amour ne sont pas les mêmes. Non. Ah ouais, pourtant, on devrait être attiré puis aimer la même personne. C'est pour ça qu'il y a toutes sortes d'écarts ou de conflits entre les deux volets.
Et ça, ça rejoint ce que j'ai déjà dit en podcast, qu'on retrouve d'ailleurs sur ma page Facebook. Je pense que c'est possible d'être en couple ou d'être heureux avec une seule unique personne toute sa vie. Mais c'est rare qu'une seule unique personne réponde à tous tes besoins.
C'est clair.
Mais je pense que c'est presque impossible que tu ne sois pas attiré à un moment ou à un autre par une autre personne. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire que tu n'aimes plus ta personne.
Ouais.
L'attirance physique et l'amour, c'est deux choses complètement différentes.
Ouais, puis là, il y a une belle nuance à faire entre avoir des fantasmes et réaliser son fantasme.
Oui.
Savais-tu que de manière générale, les hommes ont tendance à vouloir réaliser leur fantasme plus que les femmes?
Ah oui?
Des recherches qui ont été faites à l'Université de Trois-Rivières en neurosciences qui ont démontré que sur les patterns de réponse à l'excitation de certaines choses. Puis là, quand on leur demande « Est-ce que vous voulez le réaliser, ce fantasme-là ou pas? » Les femmes disent « Ah non, non, c'est sûr que moi, je veux pas réaliser ça. Là, c'est un fantasme. Je veux m'amuser avec ça là, dans ma tête. » Puis les hommes avaient tendance à dire « Ah ben oui, moi, c'est sûr que je veux le faire. Je veux le faire.
» Moi, il y a quelque chose sur quoi je me questionne.
Ouais.
L'une des choses qui est le plus souvent recherchée sur les sites de porno et tout ça, c'est du sexe lesbien, donc deux femmes. Mm-hmm. C'est recherché par les femmes et par les hommes. Mm-hmm. Pourquoi, messieurs, êtes-vous autant attirés par cette scène dans laquelle vous faites même pas partie de l'équation?
Ben, c'est ça le fantasme, justement.
Mais vous, ça vous regarde même pas, là! Pourriez même pas y être!
C'est l'abondance de féminité, peut-être?
OK.
Puis vu que c'est mis en exerbe, tu sais, ou c'est amplifié, ben ça peut-être que ça favorise les gens qui ont une tendance voyeurisme en augmentant le taux. Puis en même temps, il y a l'interdit. Puis je pense qu'il y a plein de critères explicatifs qui allument le désir.
Mais ça me fascine, les hommes qui sont attirés par des scènes de lesbiennes.
Mais pas obligé de se projeter dans tous les contextes de scène. J'ai entendu quelqu'un parler de porn éthique dans lequel l'angle de caméra était mis sous l'angle de la femme.
Oui! C'est moi qui parlais de ça.
Fait que ça, c'est très relié avec une vision du porn d'identification, de projection. Et moi, dans ma clinique, je reçois des gens qui souffrent d'une consommation excessive de porn, qui ne regardent même pas le porn. Ils le mettent en background sonore en travaillant.
En travaillant.
Donc, c'est rendu une dépendance à la stimulation sexuelle élevée. C'est même plus visuel!
Ça doit faire bizarre quand les clients arrivent au bureau en gros, puis t'entends?
Ah oui! Ah oui!
Les défauts peuvent mettre un écouteur.
Ça va faire 18,99, monsieur.
Ouais,
merci pour les crayons.
Alors, fais donc ça, le bruit, Maxime.
Ah oui!
Ah, c'est ça, ah, t'as écouté la même vidéo que la personne qui...
Ben, c'est ça. On t'avait dit que t'allais pas relever le secret professionnel, Paul.
Non, ce n'est pas mon client.
J'avais un autre, mais en tout cas, non, on en reparle pour la prochaine fois. Paul, tu reviens la semaine prochaine, j'imagine.
Ah si oui, c'est dans mon contrat, d'accord.
Merci beaucoup, ça a été encore une fois très, très, très intéressant. Pour te rejoindre, pour avoir une consultation ou encore se procurer tes ateliers qui sont disponibles en ligne, comment on fait?
Ben, pour me rejoindre pour une consultation, moi, les gens doivent me contacter en privé. Donc, mes coordonnées sont faciles à trouver sur le web, Dr. Paul Simard, psychologue. J'ai toujours de la place. Je suis contre les listes d'attente. Donc, j'ai préparé tout un écosystème de services. Puis pour ce qui est de mes formations, ben, ils peuvent aller sur ton site web. Maintenant, ils sont là aussi, mes formations.
Oui, MélanieTrudel.ca, Dr. Paul Simard, psychologue. Vous avez même droit à un code promo qui vous donne 15 % de rabais.
Oh, on finance le voyage de Mélanie.
Merci, Doc. Toujours un plaisir. Les gens aiment ça. On nous le dit à la pocheté là, sur le live. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir été si nombreux également sur le live TikTok. Merci pour les gens qui ont osé appeler. Ce serait vraiment agréable que vous le fassiez tous les soirs. C'est toujours très le fun d'interagir avec vous. Merci, Max, à la console et à la co-animation avec moi dans ce show-là.
Merci.
Sans toi, je ne saurais rien.
Oh, sans toi, je ne sais rien. Je ne sais rien aussi. Ça a été une belle semaine. Cette semaine, sérieux, que des bons shows, vraiment, merci à tous, ça a été cool.
C'était super le fun, j'ai réalisé que j'avais recommencé à parler vite, donc je reviens dans ma zénitude. Moi, depuis que j'ai retrouvé la santé, je me peux plus, là.
Ah oui, t'es en train de te transformer en petite Louis-José Hout de Radio X.
Ça n'a pas de bon sens, j'ai corrigé ça, promis tout le monde. Alors, on se dit à la semaine prochaine, demain 20h, il y aura les meilleurs moments de la semaine, mais sinon, à la semaine prochaine, 22h, vous étiez à l'écoute de la sexploratrice.
Tu parles toute lentement. J'aime ça.
Essaye de me corriger.
OK, oh, on y retourne.
Il y a quelqu'un qui fin de semaine, M&M, tu vois?
Oh.
Moi, je voulais qu'on s'appelle les M&M.
Ouais, puis j'y ai dit, M&M. On va trouver une autre idée.
Donc, merci à tous. Ça a été un plaisir encore une fois d'être là pour vous cette semaine. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix, 98h Radio X.
C'était bon, ça.
La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio X.